Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 24 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, un mort hier et allégation de tentative d'assassinat du chef de l'opposition, Seloud Alain Diallo, lors d'une journée de manifestation.
Au Togo, l'opposition accuse de nouveau le gouvernement Faure Gnassingbé de violer les décisions de la CEDEAO sur le processus électoral.
Au Mali, au moins 4 personnes ont été blessées hier à Bamako dans une bousculade au siège de la Commission électorale nationale indépendante.
Au Zimbabwe, l'opposition appelle au dialogue et à la formation d'un gouvernement transitoire d'urgence.
Le président américain Donald Trump a qualifié de fiasco total l'opération de dissimulation des Saoudiens dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Guinée, un jeune homme de 18 ans, Mamadou Samba Diallo, a été tué à Conakry hier, journée de manifestation organisée par l'opposition guinéenne, dont le chef, Seloud Alain Diallo, s'est dit lui-même victime d'une tentative d'assassinat par les forces de l'ordre. Ces dernières ont formellement démenti et condamné cette accusation et elles ont aussi demandé l'ouverture d'une enquête. Selon M. Diallo, son véhicule a été traversé par une balle alors qu'il se rendait à la manifestation interdite par les autorités locales. Les gendarmes ont visé et ont tiré. Mon chauffeur est blessé au visage par des éclats de verre, a déclaré à l'AFP M. Diallo en mettant en cause le président Alpha Condé.
La principale coalition de l'opposition togolaise a accusé mardi une nouvelle fois le pouvoir de violer les décisions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, concernant le processus électoral au Togo. Le dialogue politique initié pour trouver une issue à la crise qui dure depuis plus d'un an entre le régime du président Faure Gnassingbé et l'opposition réclamant sa décision n'a pas permis d'apaiser les tensions alors que des élections législatives et locales sont prévues en décembre. La coalition de 14 partis politiques à l'origine des manifestations qui secouent le pays dénonce des irrégularités dans l'organisation du scrutin et au sein de la commission électorale et dit craindre des fraudes.
Au Mali, au moins 4 personnes ont été légèrement blessées mardi à Bamako lors d'une bousculade au siège de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, au lendemain de la destitution contestée du président de cette institution. Le président destitué de la CENI voulait tenir une conférence de presse et nous voulions participer à cette conférence. Il y a eu refus, il y a eu cohue et il y a eu des blessés, dont moi, a déclaré à l'AFP un membre de la CENI, Sanogo Isiaka. Les autres blessés sont des membres du service d'ordre, selon le correspondant de l'AFP.
Au Zimbabwe, l'opposition appelle au dialogue et à la formation d'un gouvernement transitoire d'urgence pour mettre fin à la crise politique et économique qui s'aggrave dans le pays. Eric Manirakiza.
Selon Nelson Chamisa, dirigeant de l'opposition, la première chose à faire pour le pays est de s'engager sur le chemin d'un dialogue politique. Le leader du mouvement pour le changement démocratique, MDC, souligne ensuite que Harare a besoin d'une autorité transitoire nationale pour pouvoir résoudre la crise. « Nous sommes prêts à discuter », a dit M. Chamisa, qui a indiqué avoir rencontré des responsables religieux qui réclament l'ouverture d'un dialogue politique entre l'opposition et le président Emmerson Mnangagwa. La crise économique et financière de 2008 a entraîné le pays dans une spirale d'hyperinflation. Des pénuries et les hausses de prix actuelles sont les pires depuis cette période. Les prix de nombreuses denrées de base ont plus que doublé en moins d'un mois. La situation dans les hôpitaux est préoccupante. Au moins 50 personnes sont mortes du choléra depuis septembre. M. Chamisa a déploré l'absence de leadership jusqu'à dire que la nation est orpheline.
En Algérie, les députés se réunissent aujourd'hui en séance plénière pour élire un nouveau président de l'Assemblée nationale et remplacer Saïd Bouhadja, accusé de mauvaise gestion. Des détails avec Nani Talani.
Les députés algériens vont se consacrer à l'adoption des conclusions de la commission juridique sur la constatation et la confirmation de la vacance du poste de président de l'Assemblée populaire nationale, puis à l'élection d'un nouveau président. Mi-octobre, ces élus avaient dénoncé l'incapacité du président en exercice de l'Assemblée, Saïd Bouadia, à assurer ses fonctions du fait de son désaccord avec les députés et son refus de démissionner. Monsieur Bouadia refuse de quitter ses fonctions. Il rappelle que la Constitution indique que le président de l'Assemblée est élu pour la durée de la législature et que les textes ne prévoient aucune procédure de destitution. Plusieurs groupes parlementaires d'opposition ont annoncé leur intention de boycotter la séance, dénonçant une atteinte aux institutions. Le Front de Libération Nationale du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika, dont M. Bouadia est membre, a annoncé hier avoir désigné le chef de son groupe parlementaire, Mouad Bouchareb, comme candidat au perchoir. Celui-ci a reçu le soutien du Rassemblement National Démocratique et est donc assuré d'être élu.
Le président américain Donald Trump a dénoncé l'opération de dissimulation des Saoudiens dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, la qualifiant de fiasco total, et les États-Unis ont engagé la révocation des visas des Saoudiens impliqués.
Pendant ce temps, en Turquie, le président Tayyip Erdogan a appelé hier à punir toutes les personnes impliquées dans le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, meurtre qu'il a qualifié de sauvage et de soigneusement planifié. Et nous y reviendrons, nous y allons tout de suite avec Irénée Herman Ungbo.
Le président Recep Tayyip Erdogan, lors du point sur l'enquête, a décrit devant le Parlement un meurtre sauvage qui, selon lui, a été planifié pendant plusieurs jours et mis en exécution par une équipe de 15 agents. Sans impliquer nommément le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, M. Erdogan a souligné l'importance de punir toutes les personnes impliquées, des exécutants aux commanditaires de ce meurtre. Il faut mettre au jour les responsabilités dans cette affaire du plus haut niveau au plus bas, a insisté le chef de l'État turc qui a proposé de juger à Istanbul les 18 suspects arrêtés par Riyad. De son côté, le vice-président américain Mike Pence a affirmé hier que son pays exige des réponses de l'Arabie saoudite et rapidement. L'administration Trump a envoyé en Turquie Gina Haspel, directrice de la CIA. Après avoir nié la mort du journaliste, le gouvernement saoudien a avancé plusieurs versions contradictoires. Riyad soutient maintenant que le journaliste a été tué au cours d'une opération non autorisée dont le prince héritier Mohamed Ben Salman n'était pas informé. Sous pression, ce dernier ainsi que le roi Salman ont rencontré hier deux membres de la famille Khashoggi, dont l'un de ses fils, Salah.
Le président américain Donald Trump s'est saisi de la progression d'un cortège de milliers de migrants vers les États-Unis pour replacer la question de l'immigration au cœur de la campagne des élections de mi-mandat pour galvaniser sa base. Le point avec Jacques Aristide.
C'est un assaut contre notre pays, a déclaré Donald Trump devant des partisans enflammés au Texas lundi. Le Texas, un État qui fait frontière avec le Mexique. Le locataire de la Maison-Blanche a donc repris le sujet de l'immigration qui était au cœur de sa campagne présidentielle en 2016. Le 6 novembre, les Américains sont appelés aux urnes pour renouveler le Congrès contrôlé par les Républicains. Ce sera l'objet d'une âpre bataille face aux démocrates. Le Parti démocrate encourage des millions d'étrangers illégaux à enfreindre nos lois et violer nos frontières et submerger notre pays, a accusé le président américain. Donald Trump affirme que des personnes originaires du Moyen-Orient se sont glissées dans cette caravane de migrants, ainsi que des membres du gang salvadorien ultra-violent MS-13. Exténués après déjà 10 jours de longue marche, les quelques 7000 migrants, majorité honduriens, se trouvaient hier dans le sud du Mexique, à quelques 1800 kilomètres du poste frontière américain le plus proche.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a de nouveau appelé hier le Pakistan à brider les extrémistes combattants en Afghanistan en affirmant que son pays demanderait des comptes à Islamabad. M. Pompeo a fait ce commentaire en saluant la tenue d'élections législatives attendues de longue date en Afghanistan. Ce que nous attendons, c'est que le Pakistan n'abrite pas de terroristes sur la frontière ouest, a aussi dit M. Pompeo à la presse qu'il interrogeait sur le rôle d'Islamabad. L'administration Trump a décidé en septembre de réaffecter 300 millions de dollars d'aide promis au Pakistan.
Un adolescent palestinien a été abattu hier soir par des soldats israéliens dans la bande de Gaza, dans des heurts le long de la frontière, a dit le ministère de la Santé du territoire. Et selon une porte-parole de l'armée israélienne, ses troupes postées près de la barrière séparant Gaza de l'État hébreu ont ouvert le feu au cours d'une manifestation émaillée de violence qui réunissait environ 200 Palestiniens. Aucun soldat israélien n'a été blessé, a-t-elle déclaré, ajoutant que les troupes ont répondu avec des moyens anti-émeutes et des tirs.
Un groupe d'experts de l'ONU a condamné hier la France pour avoir verbalisé deux femmes qui portaient le voile islamique intégral. Ils ont demandé à Paris de compenser les plaignantes et de réviser sa loi. Toutefois, ces experts indépendants réunis au sein du Comité des droits de l'homme à Genève ne font que rendre des avis et n'ont aucun pouvoir de contrainte sur les États. Dans un communiqué, la diplomatie française a réaffirmé la pleine légitimité de la loi de 2010, indiquant qu'elle ferait valoir ses vues dans le rapport de suivi transmis au comité de l'ONU.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement injecte 770 millions d'euros dans un programme intégré de développement urbain qui se focalise sur les infrastructures de transport. Il vise à améliorer les conditions de vie des 5 millions d'Abidjanais, la compétitivité des activités économiques urbaines, promouvoir le développement industriel, la planification et la gestion urbaine, l'hygiène, la salubrité publique et la qualité de l'air. Les populations les plus défavorisées de Yopougon, de Songo à l'ouest, d'Abobo et d'Anyama au nord affichent des taux de pauvreté de 40 à 70 %. Ce programme leur permettra d'accéder à moindre coût aux zones pourvoyeuses d'emploi. Le Zimbabwe va contracter un prêt de 500 millions de dollars auprès d'Afrexim Bank pour financer ses importations. La Banque africaine d'import-export a précisé avoir mené des discussions à ce sujet avec le ministre zimbabwéen des Finances. L'objectif ultime est de sécuriser les importations des produits de première nécessité et de promouvoir les exportations. La BAD a décaissé près de 107 millions de dollars pour soutenir le secteur du transport en commun en Afrique du Sud. Les responsables de la BAD espèrent favoriser la croissance du secteur sud-africain des minibus-taxis, qui représente déjà 69 % des déplacements en transport public en Afrique du Sud et dessert déjà 40 % de la population.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Al Ahly Espérance Tunis, ce sera l'affiche de la finale en Ligue des Champions CAF.
Battu 1-0 en Angola à l'aller, l'Espérance Tunis a renversé Primeiro Agosto 4-2 hier à Rades, en match retour de la demi-finale. Mené 1-0 après l'ouverture du score par Geraldo pour Primeiro, l'Espérance, follement encouragée par ses nombreux supporters, a d'abord égalisé par Belaïli sur penalty à la 16e, avant de prendre l'avantage par Yacoubi à la 27e. Mais Mongo Bokamba a égalisé pour les visiteurs à la 67e. Folle fin de match en 12 minutes. Yatem Jouani puis Anis Badri ont renversé la situation.
Ligue des champions aussi en Europe hier.
Les retrouvailles entre Ronaldo et Manchester United ont tourné à l'avantage de CR7, vainqueur avec la Juve 1-0 devant Man U. Le Bayern Munich est reparti de l'avant en allant l'emporter 2-0 en Grèce sur le terrain de l'AEK et s'empare seul de la tête du groupe E, avec 3 points de plus que l'Ajax, vainqueur face au Benfica 1-0. Lyon est allé chercher le point du nul 3-3 en Allemagne face à Hoffenheim. 2-1 pour le Real Madrid à domicile face au modeste Tchèque de Plzeň. Carton plein 3-0 pour la Roma face au CSKA Moscou. 3-0 également pour Manchester City devant le Shakhtar. Enfin 1-1 entre le FC Valence et le Young Boys.
Cette troisième journée de la Ligue des Champions se poursuit aujourd'hui.
C'est l'heure de vérité européenne pour le Paris Saint-Germain. Parfait en championnat, le club parisien ne doit pas se louper face à Naples, leader du groupe de la mort, pour ne pas plomber ses chances de qualification à mi-parcours de la phase de poule. Privé de son capitaine Lionel Messi jusqu'à mi-novembre, le FC Barcelone espère que ses autres attaquants suppléeront l'Argentin. Lors des deux chocs programmés cette semaine, l'Inter de Milan ce mercredi en Ligue des Champions et le Classico dimanche face au Real Madrid. Dortmund et Paco Alcacer affrontent l'Atlético Madrid. Et pour finir, avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Détroit bat Philadelphie dans un match très serré, 133 à 132. La Nouvelle-Orléans bat Los Angeles Clippers 116-109 et Denver a eu raison de Sacramento 126-112.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, la victoire du président Paul Biya, réélu à 85 ans en 7e mandat et après plus de 35 ans au pouvoir, confirme selon les observateurs que le système politique du pays est loin de se déverrouiller. Les institutions d'État et les médias publics sont sous le contrôle strict du parti au pouvoir. Pour l'avocate Alice Koum, la mobilisation populaire sur le terrain ne pouvait rien apporter à l'opposition tant que le système resterait tel quel. Jointe à Douala par Bagassi Koura, l'avocate Alice Koum.
Ce n'est pas la mobilisation qui fait la différence, qui fait le résultat. Le système est super plombé. L'alternance est complètement verrouillé à la sortie, surtout, et à l'entrée. Dans un pays comme le Cameroun, où l'absence de séparation de pouvoir a été minutieusement étudiée depuis le départ, notre président de la République, qui est le chef de l'État, dont la vie est réglée par la Constitution, est en réalité le président du parti politique et son candidat naturel. Donc la confusion est déjà à ce niveau-là. Donc il a accès aux moyens de l'État, il a accès aux populations, à toute l'administration qui, elle, est implantée partout et payée par tout le monde. Il leur donne des véhicules sur le budget de l'État pour faire la campagne pour le candidat qu'il est.
Et justement, beaucoup se sont posés des questions sur l'indépendance même du Conseil constitutionnel. Ce mardi, on a appris que la résidence du président de ce Conseil était en construction. Est-ce que cela ne fait pas que confirmer tous ces soupçons-là?
Mais bien sûr que ça confirme les soupçons. Le message qu'on nous envoie, c'est que personne n'a la moindre marge de manœuvre dans le processus électoral. Tout le monde dépend de lui. D'abord, le président du Conseil constitutionnel avait été mis à la retraite. Il s'était reconverti dans l'avocature. Il a commencé à tirer le diable par la queue. On le sort, on le met président du Conseil constitutionnel. Le président a compris une chose extraordinaire, c'est que c'est même pas la peine de se fatiguer. Il suffit de tenir les hommes qui sont chargés de faire marcher les institutions. Et ce sont des gens qu'on tient parce que tous sont nommés par décret, sont pas élus. Et ils sont nommés par quelqu'un qui sait qui sera candidat et qui sait qu'il va avoir besoin qu'on dise que c'est lui qui est élu. Il se fatigue même pas. Il fait pas de campagne. Ça ne l'intéresse pas.
Est-ce que c'est pas peut-être le moment aussi d'aller vers des réformes au Cameroun, comme on a vu un peu partout ailleurs, des réformes du système électoral, mais aussi des réformes des institutions?
Mais c'est le même qui est le seul qui peut faire des réformes, puisque c'est lui qui tient toutes les... Il est aux législatives. C'est lui qui initierait éventuellement des réformes. Quoi voulez-vous qu'il fasse une réforme d'un système qui lui convient autant? Enfin, il ne faut pas être fou.
Ce qui était frappant aussi lors de cette campagne électorale, c'est de voir que la CRTV couvrait systématiquement tous les événements du parti au pouvoir et ne participait pas aux événements de l'opposition.
Mais c'est évident. Rien n'étonne là. Tout le monde est préparé pour orienter tout ce qu'il a à faire vers l'élection du président. Tout le monde. Ils savent, les consignes sont données à l'avance. Quand on les nomme, on sait que telle personne sera plus à même de... Il ne peut pas ne pas. Voilà. Donc c'est lui qui sait à l'avance. Pourquoi il te nomme là?
C'était l'avocate Alice Koum, jointe à Douala.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur la réélection du président camerounais Paul Biya. Âgé de 85 ans, dont près de 36 au pouvoir, il a été reconduit pour un mandat de 7 ans avec plus de 71% des suffrages. Et des résultats contestés par plusieurs partis d'opposition qui ont dénoncé des fraudes, mais ont vu leur recours rejeté par le Conseil constitutionnel. Cette présidentielle a toutefois suscité un intérêt sans précédent auprès d'une grande partie de la population. Au sortir de ces élections, qu'attendre de ce mandat alors que le président Biya a déjà passé plusieurs décennies au pouvoir? Morgane Gaillac en votre compagnie, je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel.
Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur les prisons à Madagascar. Des milliers de personnes sont maintenues en détention préventive injustifiée, excessive et prolongée, dans des conditions qui mettent leur vie en danger, affirme l'organisation. Morgane Guiriek a joint Tamara Léger, conseillère du programme Madagascar pour Amnesty International.
Les établissements pénitentiaires du pays comptent plus de personnes qui n'ont pas été condamnées encore, toujours en attente de jugement, que de personnes qui ont été condamnées. Plus de 50% des hommes qui sont derrière les barreaux, c'est 70% des femmes emprisonnées qui sont en attente de jugement, et chez les enfants, c'est carrément 80%.
Qui sont ces personnes? Pourquoi se retrouvent-elles en prison?
Une grande partie des personnes prévenues sont en prison pour des raisons qui ne justifient absolument pas une détention, et surtout pas dans des conditions telles qu'elles sont. Par exemple, chez les enfants et chez les femmes, il y avait beaucoup de prévenus qui étaient là pour des vols simples, un vol de poulet, un vol de vanille, pour des histoires d'escroquerie. La constitution même de Madagascar dit que la détention préventive doit vraiment être une exception.
Détention préventive qui peuvent durer très très longtemps apparemment.
La loi permet aux détentions préventives de durer plus de 5 ans chez les adultes qui sont accusés des crimes les plus graves et pour les enfants 33 mois. 600 enfants, c'est près de 700 qui sont derrière les barreaux, des conditions déplorables. Ils dorment même le sol, dans des conditions surpeuplées. Ils n'ont pas accès à leur famille et pas accès à des avocats.
Sur ces conditions de détention qui sont particulièrement difficiles, il y a eu des personnes qui sont mortes en prison.
L'année dernière, il y a eu 129 personnes qui sont décédées, au moins. Et parmi eux, 52 étaient en attente de jugement. Donc c'est-à-dire que ces 52 personnes-là n'auront finalement jamais accès à la justice.
Alors comment expliquer cette situation?
Nos recherches ont montré que la plupart des magistrats semblent adopter une approche assez punitive, alors que dans le droit malgache, les alternatives à la détention existent. Et d'ailleurs, sur le papier, elles doivent vraiment être la priorité. Et en réalité, on voit bien que très souvent, les hommes, les femmes, les enfants sont mis en détention préventive en attendant leur procès.
Est-ce qu'il y a aussi un problème de moyens?
Le gouvernement a échoué à faire du système de justice pénale une priorité. Donc ce manque de moyens, il s'illustre par le manque de personnel. Hier, on était dans la prison de la capitale, dans une cour où il y avait près de 400 détenus et il n'y avait que deux gardes.
Tamara Léger, conseillère du programme Madagascar pour Amnesty International.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Donnez littéralement une seconde vie aux déchets plastiques, c'est la mission que s'est assignée Makumba Diagne, un jeune entrepreneur dont la société basée à Thiès au Sénégal collecte et recycle tout ce qui est déchets plastiques. John Lyndon, notre envoyé spécial à Dakar, s'est rendu sur place. Son reportage.
C'est ici, à environ 70 km du centre-ville de Dakar, que sont traités la plupart des déchets plastiques collectés dans la ville de Thiès. À la tête de l'entreprise en charge de cette initiative, un jeune, Makumba Diagne. Avec ses employés, dont une bonne partie sont des femmes, il s'est engagé à apporter une solution aux problèmes d'emploi et d'insalubrité dans la ville de Dakar, notamment à travers la collecte des déchets plastiques. Makumba Diagne, directeur général de Proplast.
Dans le domaine de la collecte, nous parvenons à créer beaucoup d'emplois en faisant une collecte formelle, en mettant en place des kiosques à travers un réseau de collecte où les personnes peuvent y travailler et gagner leur vie décemment.
Le Sénégal a récemment voté des lois contre les déchets plastiques en vue de protéger l'environnement. Ici à Proplast, on les collecte, mais aussi on les recycle. Makumba Diagne.
Une fois que cette matière-là est collectée à travers ces réseaux, c'est acheminé au niveau de cette usine afin d'être valorisé. Et quand c'est valorisé, on a une matière première secondaire qui peut être par la suite réutilisée par toutes les industries du Sénégal, dans la sous-région et partout dans le monde.
La jeune entreprise de collecte numéro 1 du recyclage au Sénégal reste aussi très présente auprès des populations du quartier Silmang où elle est installée. Pape Sambaba, responsable des ressources humaines.
On travaille aussi avec les associations de femmes, les groupements de femmes, les associations de jeunes aussi, pour essayer de les aider et aussi essayer aussi de montrer l'existence de Proplas dans Silma, et essayer aussi de les accompagner dans les activités culturelles, sportives et sociales, tout ça.
Les déchets plastiques collectés sont rachetés aux populations qui reçoivent entre 50 et 100 francs CFA par kilo. Une rémunération qui a permis à beaucoup de personnes ici d'en faire leur gagne-pain.
Redonner une seconde vie aux déchets plastiques, c'est décidément l'objectif que s'est assigné la société Proplast. Un objectif qui lui permet non seulement de sauver l'environnement, mais aussi de faire vivre de nombreuses familles ici. John Linden, ATS pour VO Afrique.
FM 102, c'est VO Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Zimbabwe, la crise économique a entraîné une grave pénurie de médicaments. Selon les autorités, cela pousse de nombreuses personnes à se tourner vers le marché noir, alors que de tels médicaments, faux pour la plupart, peuvent faire plus de mal que de bien. De Harare, le correspondant de la VOA, Columbus Mahunga, nous propose ce reportage, repris ici par Jacques Aristide.
Le spectre des pénuries au Zimbabwe va maintenant au-delà du carburant et d'autres produits de base. La société pharmaceutique du pays a déclaré ne pas disposer de suffisamment de devises étrangères pour importer de médicaments contre le cancer, le diabète, l'hypertension. Idem pour certains antibiotiques. Lena Lukwani est âgée de 77 ans. Elle se dit chanceuse d'avoir des enfants à l'étranger qui ont pu lui faire parvenir des médicaments contre le diabète et l'hypertension dont elle souffre.
Ces jours-ci, c'est difficile. Sur les 5 médicaments dont j'ai besoin, j'en ai seulement 2. Et c'est comme ça depuis 2 mois. Je limite donc mon régime alimentaire, surtout celui de l'amidon.
Elle confie que ses amis malades se retrouvent parfois à court de médicaments. Ils sont alors contraints de les acheter dans la rue, là où l'on peut généralement se procurer de produits devenus rares sur le marché. Le gouvernement est toutefois catégorique. On ne peut pas faire confiance à ces médicaments. Shingai Yakwatidzo est de l'autorité de contrôle des médicaments du Zimbabwe.
Les médicaments n'ont pas été testés pour s'assurer qu'ils sont de bonne qualité, sûrs et efficaces. Les gens peuvent donc acheter des médicaments en pensant qu'ils les aideront, mais ils risquent, au bout du compte, d'aggraver leur état de santé.
Mais tant que ces médicaments ne sont pas disponibles dans les pharmacies, le marché de rue continuera à prospérer, permettant potentiellement soit de sauver des vies de malades à désespérer ou mettre leur vie en danger. Les pénuries et les hausses de prix actuelles sont les pires depuis que la crise économique et financière de 2008 a entraîné le Zimbabwe dans une spirale d'hyperinflation. Les prix de nombreuses denrées de base ont plus que doublé en moins d'un mois. Pour Nelson Chamisa, leader de l'opposition, la situation dans les hôpitaux est tellement choquante. Selon lui, les hôpitaux zimbabwéens sont malades et ne peuvent pas prendre soin de personnes malades. Depuis septembre, environ 50 personnes sont mortes du choléra.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la crise cardiaque.
Cette crise survient quand le sang ne parvient plus au cœur. Elle est d'autant plus redoutable qu'elle peut arriver sans symptômes et tuer en quelques secondes.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Dofra Nkulu. Il est cardiologue en RDC. Il nous dira comment réduire les risques de crise cardiaque.
Nous écouterons aussi les témoignages d'une victime et du responsable de la Fondation Cœur et Vie qui lutte contre les maladies cardiovasculaires au Cameroun.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis. Jeudi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.